30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors le sommaire de cette émission 30 minutes chrono, qui est déjà la 17e de l'année, on aura le plaisir de recevoir des gens, je vous en parlerai peu tout à l'heure. La chronique de la Baballe Carrée va s'attarder cette semaine sur le coût des maillots en prenant pour exemple les tenues des footeux. Certains prix pratiqués semblent pour le moins surévalués. Nous étudierons le prix de la passion et parfois le délire des collectionneurs, tel Louis Nicolin qui possède dans son musée de Marseillargues l'une des plus belles collections avec 5000 maillots de football, dont certains mythiques. Vous verrez que les vintage sont comme le vin, ils prennent de la valeur avec l'âge, mais aussi que les boutiques n'hésitent pas à parier sur l'avenir en espérant ne pas se tromper ni sur le club ni sur le flocage. Pour l'amateur, il vous faut faire très attention aux contrefaçons et aux faux qui sont légion dans cette jungle fétichiste. Les invités. 30 minutes chrono recevra trois invités, trois membres des Fire Sharks de Montpellier. Alors Jérôme Cononici, je prononce bien votre nom ?
C'est ça, tout à fait.
Alors Jérôme Cononici, vous êtes ?
Ben, je suis le président du club des Fire Sharks, coach voilà. Et joueur aussi.
Alors vous faites un peu tout, c'est le multicasquette on peut dire. Hein. Et puis on a aussi Greg Châtel, alors il se présente dans deux mots, qu'est-ce que vous faites vous dans les Fire Sharks, à part jouer ?
Alors moi j'interviens au niveau des entraînements de préparation physique notamment, et voilà je suis surtout joueur aussi. Quoi.
Et enfin nous avons Luc Mahoney.
Oui, c'est ça.
Là aussi, je prononce à peu près bien.
Oui, parfait.
Alors, parce que là, vous venez un petit peu des antipodes, vous. Hein, vous êtes.
Oui, australien.
Vous êtes australien et vous êtes le capitaine.
Ah oui.
Le capitaine des Fire Sharks.
Ouais.
Alors, vous avez bien compris, puisque avec tous ces noms, et c'est forcément qu'on va parler un peu d'Australie aussi. Hein. Alors, les requins de feu, on pourrait dire en français.
Oui. Mais je préfère en anglais quand même.
Oh, Fire Sharks, ça sonne mieux à Fire Sharks quand même. Alors, vous êtes donc australien, le sport à l'honneur. Ben, le sport à l'honneur, nous essaierons grâce à nos invités de mieux comprendre cette discipline très populaire en Australie. Je ne dis pas de bêtises. Hein, très populaire en Australie, capable de remplir d'immenses stades. Hein, où on peut le nommer aussi le footy.
Oui, footy.
Hein, footy, c'est marrant comme nom ça. Pour nous, ça sonne un peu bizarre,
ouais,
le footy.
C'est un peu bizarre.
Nous l'appelons officiellement le football australien. Un peu comme on dit football américain. Remarquez, notre football, vous dites soccer, non, hein, je crois. Enfin, vous dites soccer quand on parle du football français.
Ouais.
Donc, nous, on peut dire football australien. Alors, enfin, pour conclure, on fera un rapide survol avec vous de vos échéances, etc. Alors, d'abord, on va passer à autre chose. On va passer à une petite chronique. Alors cette petite chronique qui regarde souvent la baballe tourner en carré sur la planète va s'intéresser au prix des maillots dans le foot. Mais d'autres sports suivent la tendance, notamment le rugby en France. Hein. En boutique en ligne ou sur place, un maillot de club pro peut aller jusqu'à 85€ l'unité sans le flocage. Bien sûr, ici, on peut parler de Paris ou de quelques grands clubs. Mais même quand on descend à la paillade, le tissu du club se vend quand même 70€ pour le à domicile de cette saison. Évidemment, le prix est surtout fonction de la nouveauté et de l'aura du club. C'est bien sûr que cela, c'est pour ça que les spécialistes du marketing et du merchandising, comme on dit en français, changent les maillots toutes les années et inventent des maillots extérieurs, parfois un peu cocasses. Ensuite, dès que le maillot de l'équipe change, l'ancien que vous portiez fièrement se déprécie aussi vite que l'arcus de votre voiture. Sauf que, après, cela dépend du véhicule et de l'offre et de la demande. Si bien que c'est là que nous entrons dans le domaine de l'irrationnel ou de la passion dévorante. Les maillots deviennent vintage et, tel le bon vin, ils vieillissent en augmentant leur prix. Jusqu'au délire, tel un Château Yquem de chez Sauternes par exemple. Ensuite, il faut qu'il ait été porté par une star du ballon rond ou qu'il ait disparu complètement de la circulation depuis des lustres pour prendre de la valeur. Comme ceux qui ont été floqués CCCP de la défunte Union soviétique. Ici, nous avons à Montpellier un collectionneur haut en couleur, au verbe bien pendu, qui collectionne depuis 1990 des tas de reliques. Il dit qu'il en a près de 5000. Je remercie ici Pierre-Étienne Munizio, journaliste au quotidien L'Équipe, pour quelques informations. Louis Nicolin, dans le musée privé qu'il a chez lui à Marseillargues, nous donne quelques prix et explique qu'il a un réseau d'acheteurs chargé pour lui de faire les ventes aux enchères. Limitation 2 500€ le maillot. 2 500€ le maillot, c'est quand même pas donné. Loulou, il faut pas le pousser pour que la passion le dévore. Alors il avoue qu'il dépenserait bien même 10 000€ pour un collecteur porté par Lev Yashin, le gardien mythique de l'Union soviétique. Mais il paraît que ça n'existe plus. Enfin, les vrais. Avec certificat d'authenticité et ou la photo prouvant que le don a bien été fait. Dans cette bourse au tunique, nous sommes dans un cas d'école du système de l'offre et de la demande qui régit notre société capitaliste. Pour les maillots portés, les collectionneurs fortunés peuvent aller très loin pour une relique unique. Ainsi, le record absolu appartient toujours au numéro 10 de la sélection brésilienne portée en 1970 par le roi Pelé au Mexique lors de la mémorable finale de la Coupe du Monde contre l'Italie, victoire 4-1 de la Seleção. Son prix chez Christie, 252 400€. 252 400€. Plus raisonnable, 35 000€ pour un George Best, vous savez, un génial numéro 7 de Manchester United, porté en 70 lui aussi, lors d'une cup. Il avait gagné 8-2, enfin son équipe avait gagné 8-2 et lui va marquer 6 buts. Alors il y a de tout dans les prix. Il suffit de demander à NSH Football, une boutique spécialisée dans le vintage près de la place de la République à Paris. Dans ce haut lieu du maillot, on mise sur l'avenir en achetant des maillots d'aujourd'hui floqués au nom des joueurs et en misant sur la rareté du futur. Ainsi, un Beckham acheté 75€ en 2003 maintenant se vend 200€. Cette année, la boutique va mettre en cave des Ibra en espérant les revendre beaucoup plus cher à l'avenir. Dans cette jungle, il faut faire très attention, car comme vous le savez, on trouve tout et n'importe quoi sur la toile. Il existe donc un nombre incalculable de faux et de maillots faussement portés. Parfois, c'est grossier, comme copie. Mais aussi, on trouve des faussaires de talent qui vous fourguent un faux presque vrai, plus vrai que l'original, avec un peu de sang séché et de la boue décolorée du meilleur effet. Peut-être que vous êtes comme moi. Vous n'avez pas le culte fétichiste du vêtement porté par vos héros sportifs, à moins que vous ne préfériez d'autres articles vestimentaires portés par vos actrices adorées. Je vous préviens, c'est pareil. C'est pareil que le foot. C'est très cher et il y a plein de fausses Madonna, Sharon Stone, Marilyn, pas très nettes sur le net. Thank you. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors aujourd'hui, c'est les invités, j'en ai trois. Alors vous avez entendu une musique qui vient d'Australie, je ne me trompe pas, Luc ? C'est bien une musique australienne qu'on a entendue.
Oui, c'est ça, le didgeridoo.
Voilà, c'est les aborigènes hein, donc d'Australie qui sont les plus grands, les descendants, les plus vieux habitants de votre pays-continent. On peut dire presque un continent dans un pays tellement c'est grand l'Australie. Alors, on va parler donc d'un sport qui est le football australien avec trois invités. Alors, on va refaire un petit tour rapide. Alors j'ai Luc à ma gauche. Luc est le capitaine, je crois, de cette équipe des Far Sharks. Vous pouvez vous représenter, vous venez d'Australie et vous habitez Montpellier, je suppose, puisque vous jouez ici.
Oui, j'habite à la Grande Motte, oui.
À la Grande Motte, oui, pas très loin d'ici. Et vous jouez dans cette équipe, donc des Far Sharks, ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Un an, l'année j'ai été ici.
Et vous avez rejoint cette équipe, voilà, très bien. Un petit peu plus près, voilà. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, j'ai un jeune homme qui est préparateur physique hein, de l'équipe, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Je fais une licence STAPS, donc pour devenir préparateur physique. Et voilà, ça fait 4 ans que je suis au club, donc...
Et c'est Greg Châtel.
Grégoire, c'est
Grégoire, on dit Greg.
C'est... Ouais, voilà. Ouais, bon, c'est ce qu'on m'a dit. En général, les gens m'appellent Greg, c'est
bon,
ça.
Bon, ça fait Greg, ça fait plus australien d'ailleurs que Grégoire.
Hein. Voilà, ça fait un peu.
C'est bien.
Et anglophone.
Et vous, ça vous a... pourquoi vous avez choisi ce sport en un mot, si vous pouvez me le dire?
Ben, moi, j'ai toujours été très sport collectif.
Oui.
Voilà, j'ai toujours joué au football. Donc, au football australien, on joue beaucoup, beaucoup avec le pied. Donc c'est un sport qui m'a attiré. Voilà.
Et puis ça vous a permis peut-être de rejoindre quand même des sportifs d'un certain niveau.
Exactement.
Sans passer
Exactement.
Par toute la difficulté.
C'est ça. Le football et le rugby, c'est quand même très fermé. Et le football australien, c'est.
Puis c'est nouveau un peu.
Il y a des belles promesses de développement. Donc voilà, ça m'a attiré.
Et puis enfin, le dernier invité, c'est Jérôme Canonici. Alors lui, il a plusieurs chapeaux, il est président, il est joueur, il est coach, on peut dire.
Oui, complètement.
Voilà. Et alors vous, c'est une passion, je suppose, le football australien.
C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, un peu plus que Greg, il y a 6 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, je me suis pris un peu à cette dynamique. Et j'ai été sélectionné une fois en équipe de France. Donc forcément, ça motive vraiment hein, de partir comme ça à l'étranger un peu pour représenter la France. Après, j'étais un peu par hasard mis président.
Président de ce club, il en faut bien. Vous avez remarqué, des fois les gens ils se défilent et puis
il faut bien
qu'il y en ait un qui soit président.
Je ne pouvais pas m'échapper, donc il a fallu que j'y aille. Et forcément, on est obligé de s'impliquer à fond. Donc ça devient une passion, c'est vrai, mais bon, il y a du monde autour de moi et, et c'est essentiel. Quoi.
On a vu ça, j'ai regardé un peu, bien entendu, vous en doutez, vos sites, vos contacts. Il suffit d'ailleurs de taper sur un moteur de recherche Far Sharks Montpellier et là on tombe sur un certain nombre de choses. Votre site est en construction un peu, mais par contre il y a plein d'informations que vous pouvez obtenir très facilement sur Facebook.
C'est ça, Facebook, on communique pas mal sur les réseaux sociaux. Parce que bon, ça marche bien en ce moment, il y a beaucoup de monde dessus.
Ben voilà, alors donc si des auditeurs voulaient se renseigner sur comment ça fonctionne, il suffit d'aller sur ces réseaux.
Sur Facebook, Wikipédia, il y a beaucoup de... ou me téléphoner tout simplement. Hein.
Voilà, alors bien sûr, toutes ces informations, vous les trouvez sur Internet. Alors à propos, juste une petite parenthèse, à propos du prix des maillots, comme j'ai fait la chronique sur le prix des maillots, je me suis renseigné un peu. Eh bien le maillot officiel de l'équipe nationale australienne se vend à 35 euros. Sur le site du Comité national de foot australien français qui le met en vente. Alors,
d'accord.
35 euros, c'est pas très cher,
parce que
c'est quand même le maillot officiel.
Ouais.
Alors, tout à l'heure, avant de cette émission, on plaisantait un peu. C'est parce qu'il coupe les manches, c'est pour ça que c'est pas cher.
C'est ça, moins cher.
Voilà, c'est beaucoup moins cher. Hein. En effet, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous pouvez le dire, Luc, c'est que les maillots, ils sont sans manches.
Sans manches, oui.
Ça a toujours été une tradition ou...
Non, c'est parce qu'on a les bras très grands.
C'est pour pouvoir bien prendre nos ballons et sans être gêné par la manche hein, parce que quand on a les manches longues ça tire un petit peu
ça tire et l'opposition pour te attraper plus facile aussi.
Ouais. Oui, voilà. Alors, donc, et puis aussi, c'est peut-être parce que dans votre pays, souvent, il fait un peu chaud quand même. Hein.
Oui, c'est ça. On joue dans le Pendant Lever. Mais toujours plus chaud.
Là, au mois de janvier, par exemple, il y a les Australiens qui font l'Open d'Australie à Melbourne. J'ai vu qu'il faisait 44 degrés. Alors, je ne sais pas comment on joue au tennis à 44 degrés. Et vous nous expliquerez comment on joue au football australien par des temps comme ça. Mais ce n'est pas tout le temps quand même.
Oui, non. On commence la saison pendant...
Mars.
Et oui, c'est moins chaud.
Oui, vous faites l'hiver en fait, une saison d'hiver. Voilà. Enfin, l'hiver relatif, hein, parce qu'en Australie, même en hiver, il y a des endroits où il fait encore très chaud. Mmh. Est-ce que les deux autres joueurs ont déjà eu l'occasion de se rendre en Australie ?
Non, pas du tout. Pas du
vous
tout.
Et moi, oui.
Ah, bah voilà, c'est intéressant. Alors, vous avez pu voir des matchs de football
malheureusement,
australien ?
Non. Malheureusement, non.
C'était pas la bonne saison, peut-être.
Voilà, non, mais ouais, c'est ça, exactement.
Et vous, alors, Luc, vous jouiez déjà au football australien avant de venir en France, je suppose ?
Oui, j'ai joué depuis...
Tout petit quoi.
J'ai 8 ans.
Ouais, l'âge de 8 ans, oui.
Tu n'as pas le choix.
Ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs, c'est qu'en Australie, c'est vraiment un sport vraiment très, très, très populaire.
Oui, c'est hein? ça.
Donc, c'est mis en avant tout de suite. Quand on est à l'école, hein, when you're in school, hein, on joue à football australien, on joue à d'autres choses aussi.
Ah oui. Le cricket.
Le cricket, voilà
oui,
ce que j'ai dit.
Pendant l'été, c'est le cricket, mais l'hiver, c'est le footy.
Voilà, le footy, donc voilà. Alors, on a dit aussi que c'était, alors c'est peut-être une légende, que c'était parce que les joueurs de cricket avaient besoin d'avoir un entraînement physique non, plus important et qu'ils auraient créé ce foot australien au 19e siècle.
Ouais, ouais. Ça, c'est, je crois que c'est en 1859, quelque chose.
1850.
Voilà, c'est ça.
Et ah oui.
Donc, pendant l'hiver, il fallait faire quelque chose et... Du coup, ils se sont mis à faire ça petit à petit. D'ailleurs, le premier club a été créé à Melbourne, Melbourne Cricket Club.
Et voilà.
Donc, ça a été fait comme ça.
Donc, il y avait le mot cricket dedans.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ben, je crois qu'il y a toujours le mot cricket dans le Melbourne Club. Donc, ça a commencé comme ça. Et ils ont créé un sport par rapport à beaucoup de choses et c'est parti comme ça. Quoi.
Alors, quand même, pour les auditeurs, je vous rassure tout de suite, le football australien, c'est un petit peu plus vivant que le cricket. Parce que le cricket, pour les non-puristes comme nous, des fois, on peut regarder un match de cricket, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et quand il se passe quelque chose, c'est déjà trop tard, parce qu'on était parti au bar d'à côté boire une bière, et que le temps qu'on revienne, c'est fini, l'action est terminée. Au football australien, c'est un sport très, très, très... où il y a de l'action tout le temps. Il y a de l'action tout le temps.
Il n'y a pas de temps mort.
Alors, combien de joueurs par équipe ?
En Australie, on joue, c'est 22 par équipe, mais il y a 18 sur le terrain.
Voilà,
à chaque côté.
Et vous, chez vous, c'est...
Alors, en Europe, vu qu'on n'a que des terrains de rugby quasiment, à part dans le Nord, en Angleterre, en Allemagne, tout ça, nous, on est obligés de jouer sur des terrains de rugby. Donc, on joue à 9 contre 9.
Oui, parce que je vais vous donner les dimensions du vrai terrain de football australien. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un terrain ovale.
C'est ça.
Il n'est pas rectangulaire comme nos terrains.
Comme au cricket, en fait.
Et avec une longueur de 185 mètres. Et je vous signale que c'est quand même sacrément grand, 185 mètres. Hein. Et une largeur de 155 mètres. Ça, c'est les plus grands. Hein. Ouais. 185 mètres, 155 mètres.
Très, très grand.
Alors, là, les matchs jouent à 18 avec 4 remplaçants. C'est ce que j'ai trouvé sur votre site, donc vous ne devez pas me dire de bêtises. Alors en Europe, les matchs se jouent plutôt à 9, avec 6 remplaçants, et sur les terrains de rugby. Alors en gros, quelle est la différence, pour qu'on se fasse une idée, ceux qui n'ont jamais vu du football australien, la différence avec le rugby au niveau, par exemple, des poteaux ?
Alors, franchement, ça n'a pas grand-chose à voir.
Voilà, ce n'est pas du rugby, du tout.
Non, ce n'est pas du tout du rugby. Nos poteaux, déjà, on n'a pas la transversale, et on a 4 poteaux.
Ah, alors vous voyez, ça n'a rien à voir. Non, c'est non, pas du tout deux poteaux avec un truc au milieu.
Ça, on ne doit pas mettre d'essai. Nous, pour scorer, en fait, on doit mettre un but, un goal entre les deux poteaux du centre qui fait 6 points.
D'accord.
Et sur les côtés, c'est 1 point, en fait.
D'accord. Si vous ratez un petit peu la cible, vous avez quand même
on
un
point.
On a quand
même un point.
Les rugbyman devraient s'inspirer de ça parce que des fois, ils tapent le poteau et c'est 0 point.
Ouais.
Alors c'est quand même dommage. Hein.
Par contre, si on touche le poteau, c'est seulement 1 point. Hein.
Ah oui, c'est considéré comme raté.
Ah, c'est puni, là. Ouais.
Un point, d'accord. Alors, le ballon. Alors, le ballon, vous en avez apporté un, ballon. Alors, on n'est pas à la télévision, donc je le montre pas aux auditeurs, mais quand même, on va le regarder un peu. Alors, ça ressemble un peu à un ballon de rugby, on peut dire.
Ouais,
mais...
c'est plus ovale, c'est plus longiligne.
Il est plus long.
Et moins gros, en fait.
Voilà. Et le poids, à peu près ?
C'est identique. Hein.
C'est à peu près identique.
Ouais, c'est identique.
Par contre, on n'a pas de grippe.
Ah, d'accord. Ce sont pas des ballons plastiques. Ce sont des ballons toujours en cuir.
Oui. Ouais, alors Luc pourra nous dire, mais c'est un cuir spécial, en fait.
Alors, donc, il y en a qu'en Australie, certainement.
Oui.
Voilà. Je ne dis pas que c'est du cuir de kangourou, hein. Sans ça, vous allez vous faire mal voir. Hein.
Alors, justement.
Alors, allez-y.
Oui, c'est le kangourou.
Ben voilà, c'est le kangourou, bien sûr. Puisque ça représente vraiment l'Australie, donc c'est bien normal qu'il soit représenté dans votre sport, hein, quand même. C'est beau.
Bah, ça fait partie de leur culture, je pense que c'est comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un cuir de kangourou. Bon, nous, en Europe. On n'a pas ce genre de choses, mais voilà, le ballon qu'il a apporté, c'est un shearing, donc c'est vraiment un ballon typique de là-bas.
Ouais.
Donc celui-là,
c'est, ouais, c'est un vrai de vrai celui-là.
Voilà, il est vraiment magnifique, il est très lisse pour les auditeurs, ouais, je vous dis, c'est très lisse.
C'est très dur pour attraper les ballons.
Ça. Voilà, ça doit être, quand il pleut, ça doit ripper peu. Hein.
C'est compliqué.
C'est bien très lourd aussi.
Quand et alors, maintenant quelques règles, les passes, ça se fait comment? Par derrière, par devant
Alors on peut passer d'avant en arrière, n'importe où. La seule chose importante, c'est qu'il faut boxer le ballon avec la main.
Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de capter le ballon avant de passer.
Il faut prendre le ballon et le boxer d'une main en fait.
Vous ne pouvez pas faire des passes comme au rugby.
C'est ça, on ne peut pas lancer le ballon, c'est une faute.
Ah d'accord,
et là, c'est une faute ça.
À ce moment-là, c'est l'autre équipe qui récupère la balle.
C'est ça, il y a un free kick pour les autres, donc un coup franc en français. Et donc il faut vraiment boxer la balle et c'est une technique vraiment particulière. Les nouveaux ont un peu de mal au début, il faut vraiment s'y appliquer.
Oui, parce que ça ne va pas être facile quand même de boxer un ballon qui a la forme d'un ballon de rugby. Hein,
mais il y a une technique particulière et les gens arrivent à faire des passes de 25 mètres facilement, très précises, il n'y a pas de souci. Hein.
Et je suppose que les stars australiennes sont capables de faire des passes incroyables. Hein.
Oui, oui, il faut qu'on fait 35, 40 mètres.
Voilà. Et les meilleures équipes du monde, à part l'Australie, qu'est-ce qu'ils jouent au football australien? Les Néo-Zélandais peut-être?
Ah, pas beaucoup. Il y a, je crois, 60 pays
qui
jouent au foot australien. Mais
c'est sûr.
Les Australiens, ils ont joué le premier match en Nouvelle-Zélande l'année dernière.
Ah oui.
Mais c'est vraiment que Australie.
Ouais. Oui, c'est vraiment un sport typiquement australien, ouais, on peut dire, mais qui est quand même pratiqué à travers le monde.
Après, dans l'Océanie, il y a quand même beaucoup d'émules autour dans les pays. Ça joue bien en Nouvelle-Zélande.
Samoa peut-être,
Toutes ces îles-là, ils connaissent ce sport, ils y jouent quand même. Même en Nouvelle-Zélande, ça commence à s'appliquer.
Et puis, ils regardent la télévision.
C'est ça.
Et on peut voir la télévision australienne peut-être un peu dans ce Pacifique.
Ici en France, on a quelques matchs. Après, l'AFL, donc la Ligue australienne, quand même, commence à promouvoir dans le monde entier, essaye de développer ça, notamment en Irlande. Parce qu'ils ont un sport, le football gaélique en fait. Ça ressemble à notre sport. Et ils font des matchs internationaux entre les deux pays.
Oui, c'est ce qu'on appelle le football irlandais. Ou
football gaélique, en fait.
Gaélique, voilà, gaélique, qui réunit aussi des stades plein à craquer.
Là-bas,
même plus que le rugby, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Plus que le rugby. En Australie aussi.
Oui. Ça.
Parce que l'Australie est une très bonne équipe de rugby à 15, mais bon, il n'y a pas que ça. Et rugby à 13 aussi.
À 13 aussi, ouais.
Voilà. Et si vous voulez, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve.
D'accord.
Allez, on va écouter ce que vous avez choisi comme pause musicale. Le lancer du CD. Alors, pour cette pause musicale, on est resté en Australie. Alors, je me trompe pas, c'est AC/DC ?
Oui,
c'est ça.
Et le titre de la chanson ?
C'est Shoot the Switch, je crois.
C'est ça. Alors, c'est vraiment un groupe mythique australien que tout le monde connaît dans le monde entier.
Voilà.
Donc, vous avez bien choisi
pour, c'est dans la thématique.
Pour illustrer votre sport. Alors, on a quelques minutes, là, juste avant de se quitter. Ça va être court. Donc, ce que je voudrais bien que vous nous dites, c'est d'abord, où est-ce que vous jouez à Montpellier, si on veut venir vous voir, ou si on veut venir découvrir ce sport. C'est à quel endroit ?
Alors, en ce moment, on joue nos matchs à domicile sur la Grande Motte, au stade de rugby, au parc des sports. On n'a pas encore de stade sur Montpellier, c'est une autre demande. On espère plus tard avoir un stade de Montpellier quand même. Parce qu'on est quand même le club de Montpellier.
Ah bah vous appelez Montpellier Fire Sharks.
C'est ça, on a la...
Ah mais c'est très compliqué d'obtenir des choses à Montpellier.
C'est très dur pour l'instant.
Mais on va profiter de cette émission pour faire un appel. On connaît des gens à la mairie de Montpellier. Écoutez bien, les nouveaux sports, c'est important.
C'est très très important, surtout celui-là.
Et surtout quand on est près des échéances électorales, ne l'oubliez pas.
Non, mais on est en plein développement, donc ça serait bien quand même que Montpellier...
Un petit geste.
Non, ça va venir. Vous allez voir, ça va venir.
C'est ça.
Vous attendez le nouveau maire et vous vous présentez. Voilà. Et alors, sans ça, pour votre championnat de France, il y a Toulouse Hawks.
C'est ça.
Il y a Paris Cockerets.
C'est ça.
Ensuite, on a Cergy Pontoise, les Coyotes.
Ouais.
Que des noms australiens. Hein.
Oui.
Et Montpellier, on les a déjà connus avec les Fire Sharks. Bordeaux, c'est les Bombers.
Ouais.
Strasbourg, les Kangourous. Mm-hmm. Et enfin, Alpha Lions, on dit, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde reprend, à part Montpellier et un ou deux autres, la plupart reprennent des clubs qui existent déjà en Australie, en fait.
Alors, les logos, ouais.
Voilà, c'est logo qui excède. Oui, je vois, j'ai devant les yeux les logos. Allez sur le site, vous allez voir, c'est très beau. Il y a des super logos.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais.
C'est
le vôtre est particulièrement joli. Je vais demander au préparateur physique Grégoire Digreg, quel est le prochain match que vous avez à faire et où est-ce qu'on pourra aller le voir?
Alors, on joue à l'extérieur en février. On a deux matchs en février. Le premier, c'est même un tournoi. Le 1er février à Toulouse.
À Toulouse, donc il y aura plusieurs équipes.
Exactement, ouais. On fait sur une journée, on rencontre la plupart des clubs du Sud, en fait.
Ah, d'accord.
Notamment une équipe d'Angleterre qui va venir.
Bristol.
Et il y a Perpignan aussi, je crois, qui joue.
Ouais.
Perpignan, c'était aussi une équipe. Bon, voilà, très bien. Et à Montpellier, quand le prochain match, vous savez.
C'est contre Strasbourg en avril.
Strasbourg en avril. Ouais. Donc vous avez le temps de voir tout ça, mais ça vaut la peine. Renseignez-vous, allez voir nos sharks, les requins, nos sharks. Il y en a plein de requins en Australie, hein.
Oui, trop.
Ouais. Trop, hein. Des fois, il faut nager vite, hein, c'est ça. Oui. Mais avec votre sport qui est un sport qui va très vite, vous savez, vous dégagez rapidement, je suppose.
Ils ont la condition.
Voilà. Mais écoutez, j'étais ravi en tout cas de vous recevoir.
Ouais, c'est un merci plaisir
à vous,
pour nous.
Hein. Avec un grand plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir un sport qu'on ne connaît pas forcément.
Ah, il faut découvrir. Ouais.
Avec ces 30 minutes.
Curieux. Ouais.
Voilà. Puis ces 30 minutes chrono sont un peu là pour ça. Alors, écoutez, on va se quitter. Et puis, si vous voulez réécouter cette émission, vous allez sur le site évidemment de Divergence FM. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.